1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Je suis Pierre Grillet, bonsoir.
Chigaze Obiama.
Je suis Benjamin Sixou.
Ping pong. La culture sans limite. Ping pong.
Ce soir, un ping-pong marathonien en public et en direct du Sénéchal à Toulouse pour la 12e édition du Marathon des mots avec un écrivain, un parolier et un chanteur pour invoquer le pouvoir des mots, ceux après qui l'on court et ceux qui nous font courir aussi, et le grand danger.
Et ce, avec l'écrivain nigérian Chigozie Obioma, dont le premier roman a envoûté la critique et le public anglophone et qui vient d'être traduit en français chez L'Olivier, un roman au titre équivoque, Les Pêcheurs, qui nous conte le destin d'une famille maudite.
Et avec un homme de parole, pour reprendre un joli calembour de la presse, Pierre Grillet qui écrivit Madame Rêve pour Monsieur Bachung, avant de l'écrire pour lui-même dans un livre qui révèle la vraie histoire de cette madame. Un récit qui comptera ici, accompagné au chant et à la guitare de Benjamin Sixou, qui nous offrira en live pour Ping Pong sa version d'une autre chanson à cause des garçons.
Mathilde Serrel, Martin Kenéen, Ping Pong.
Ping-pong en direct du Marathon des mots avec un des thèmes cette année, Africa Nova, et un écrivain nigérian qui est devenu instantanément, avec un premier roman, un classique de la littérature nigériane. Chigozie Obioma, vous êtes avec nous ce soir. Les Pêcheurs, c'est publié en France aux éditions de L'Olivier. Vous avez écrit en anglais. La langue anglaise, elle est utilisée dans le livre pour mettre de la distance. Lorsque on parle aux étrangers à l'extérieur de la maison, on s'adresse à eux en anglais. Lorsqu'on se fâche contre ses enfants au sein de cette fratrie qui va vivre une terrible tragédie, on se parle aussi en anglais. Comment vous regardez, vous, cette situation aujourd'hui, désunie du Brexit entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ?
Well, I'm not an expert on British politics, but in relation to what I'm trying to talk about in my novel, on a secondary level of interpretation or understanding, The Fisherman is a novel about the influence of an external force on the unity of a particular entity, here being the family as a metaphor for Nigeria. So in that respect, to the Nigerians, the British incursion disrupted our civilization and it was injurious to our, well-being. But I don't know to what extent the others affected Britain.
Très bien, je ne suis pas du tout un expert sur la question, mais pour faire un lien avec la situation nigériane que je connais, il est effectivement dans mon roman, il est question d'une force extérieure qui vient détruire une unité familiale et qui est un symbole de une culture extérieure ici britannique qui est venue influencer le pays, le Nigeria. Il ne voit pas trop le lien avec ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre.
C'est pas forcément un lien, c'est un regard.
Well, I'm not surprised. That's just what I'll say. I think recently I was talking to a US media about what I think is the culture of insincerity today in America, in Britain. So the left has become extraordinarily powerful, especially in America. And they try to shut down, speech that they don't like. So I think the rise of Donald Trump, for example, is in many parts a reaction to what many feel as the dogmatism of the left. So I think there has to be a balance between the right and the left. One should not be more powerful than the other.
Donc il n'est pas je ne suis pas du tout surpris de la situation aujourd'hui en Angleterre. Il se trouve que c'est un peu quelque chose de similaire qui se passe aux États-Unis avec l'hégémonie de la gauche. Qui en fait fait taire les autres voix, et donc c'est comme le phénomène de Donald Trump qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, c'est ces voix qui ont besoin de s'exprimer aujourd'hui, et il estime qu'il y a besoin d'un équilibre entre différentes voix et pas la prédominance d'une seule voix ici, la gauche.
Oui, rappelons-le, Chigozie Obioma est nigérian, mais il vit et travaille dans une université américaine au Nebraska aujourd'hui, donc il est aussi attentif évidemment et partie prenante dans la vie politique américaine. américaine. Quant à vous, Pierre Grillet, parolier de chansons, et vous, Benjamin Sixou, à la fois musicien et chanteur, vous êtes des experts, mais des experts donc en musique. Quand on vous dit Brexit, quand vous avez ouvert la radio, ou peut-être la télévision, ou lu la presse aujourd'hui, parlons de chansons. Il y a des chansons anglaises, irlandaises, galloises, écossaises qui vous sont venues pour dire, je sais pas, vos sentiments, votre ressentiment.
You say yes, I say no, I say go, go, go. Non, c'est pas ça, c'en est une. Toi, t'en as
c'est
une.
C'est les Beatles.
C'est moi,
Beatles.
Tout de suite, c'est I fought the law and the law won. I fought the law and the law won.
Adèle, vous pourriez traduire, s'il vous plaît.
Oui, clash.
Les c'est les clash.
Je me suis battue contre la loi, loi numéro 1.
Merci.
Non, la loi a gagné.
Et elle a gagné.
Ah, law one, pardon.
Ah, sorry.
Elle gagne, la loi, la loi gagne.
La loi est dure, mais c'est la loi.
Mais c'est la loi.
Un soir au bord du fleuve Omiala au Nigeria, le fou Aboulou fit une terrible prophétie à trois frères venus pêcher. Péché originel que de venir auprès de ce fleuve maudit.
We began going to the river every day after school in the company of other children of the street in a procession led by Solomon, Ikenna and Boja. These three often concealed hook fishing lines in rags or old wrappers. The rest of us, Kayode Igbafe, Toby Obembe, and I, carried things that ranged from rucksacks with fishing clothes in them to nylon bags containing earthworms and dead roaches, which we used as baits, and empty beverage cans in which we kept fish and tadpoles. Together we trod to the river, wading through bushy tracks that were populated with schools of prickly dead nettles that flogged our bare legs and left white whelps on our skin. The flogging the nettles inflicted on us matched the strange botanical name of the predominant grass in the area, the esan, the Yoruba word for retribution or vengeance. We'd walk this trail single file, and once we'd pass these grasses, would rush off to the river like madmen.
Shigozi Obioma et sa lecture en version originale des pêcheurs, traduit en français aux éditions de l'Olivier. Il s'agit donc de ce fleuve Omiala, de cette prophétie. Des frères seront frappés de cette prophétie de fratricide. L'un d'entre eux périra sous les coups de l'autre dans une mare, dans un fleuve rouge, dit la prophétie. En quoi c'est une tragédie purement sur le modèle tragique, celui que vous avez lu chez Shakespeare, chez Euripide ou chez Eschyle, mais une tragédie Igbo, c'est-à-dire une des langues du Nigeria.
Because there's a subtle difference between the Shakespearean or Greek ones and what I see as the Igbo tragedy.
Donc il y a quelques différences entre la tragédie antique traditionnelle et l'Igbo tragedy.
The Greek, Western one is predicated on some kind of flaw or hamartia. So some bad things happen to someone because they've done something wrong.
Donc dans la tradition occidentale, la tragédie est déclenchée par ce qu'on appelle l'hamartia, c'est-à-dire l'erreur commise par le héros.
But ours is not necessarily so. It is, in fact, the reverse. You don't do anything to merit what happens. Life just happens to you because it is life.
Mais dans la tragédie Igbo, c'est l'inverse. La vie vous arrive. Il n'y a pas de faute tragique à la base. C'est la vie.
That's the difference. That's the difference.
Voilà la différence.
Vous, Pierre Grillet, parolier, je le disais, et notamment de cette chanson Madame Ray, qui vous a poussé l'an passé à publier chez Stock le récit, la véritable histoire de cette femme qui rêve et de votre rêve de cette femme, et que vous donc proposez aujourd'hui dans le cadre du Marathon des mots ici à Toulouse, où nous sommes en direct et en public dans une lecture musicale accompagnée par Benjamin Sixou. Ce sera ce soir à 22h30.
Oui.
Cette histoire, c'est pas une chanson, dites-vous, c'est toute votre vie. On parle de la vie et de ses malédictions. Est-ce que les mots que vous utilisez, que vous maniez dans les chansons, ont quelque chose de magique ou de maléfique?
De maléfique, non, je crois pas. Enfin, peut-être pour moi, j'en sais rien, mais je crois pas que j'ai porté malheur à qui que ce soit jusqu'à nouvel ordre. Mais quand je dis c'est... Non, mais je répondais à ce qu'on me disait, mais comment vous est venue cette idée de faire cette chanson, ou une autre d'ailleurs? Et je dis, c'est pas une idée, c'est ma vie. Bon, c'est un peu court peut-être, mais je le ressens comme ça. C'est pas une idée d'écrire Madame Rêve.
C'est une rencontre.
C'est une expérience que j'essaie de traduire, ou j'essaie même pas, ça vient tout seul. Et donc c'est la vie qui se traduit autrement, à travers une chanson ou un livre, mais c'est pas une idée.
Benjamin Sixou, vous aussi, non content de chanter ce soir les chansons de Pierre Grillet, vous écrivez des chansons. Alors est-ce que ça vous vient comme ça? Vous êtes inspiré par les muses, par un daimon, comme on disait chez les Grecs dans l'Antiquité?
Par quoi on est inspiré? Je crois que...
Par les erreurs qu'on fait, comme dans la tragédie?
Ah, alors ce qui est intéressant, c'est de garder les erreurs, les accidents, et que ça soit pour les mots ou pour la musique, la composition ou l'enregistrement, c'est de garder, essayer de garder ces accidents et de les faire et de les mettre en valeur et de les magnifier, oui. Puis ça, souvent ça fait aller ailleurs, quoi. Ouais. Mais après, je sais pas. Non, aussi la malédiction. Je pense pas qu'il y ait de malédiction dans les mots, dans les. Mais après, ça peut.
Vous croyez pas au sort qu'on jette comme ça?
Ça peut être très inspirant d'y croire, oui. Non, je sais pas. Je pense que c'est plus l'interprétation que comment on reçoit un mot ou une idée. Et
vous
une
avez
phrase.
Déjà rencontré quelqu'un, vous, qui a jeté un sort à quelqu'un?
Oui.
Ah bon?
À Boulou, en tout cas, le sorcier des pêcheurs.
Ah oui, non, mais en vrai, quoi, dans la vie, en France.
On n'arrête pas de se jeter des sorts, mais qui sont moins musicaux, peut-être, non, que les sorts des sorciers qui savent dire les choses.
Je sais pas, moi, personne. Enfin bon.
Si on vous dit, tu écriras des chansons.
Vous allez vous transformer en raquette de ping-pong, vous êtes au courant?
Si on vous dit un jour, tu écriras des chansons, Pierre.
Non, mais personne m'a dit ça.
En tout cas, il y aura une réflexion ici au Marathon des mots, oui, sur la malédiction, avec Shigozie Obioma, Mackenzie Ansel, qu'on a reçu aussi, écrivain haïtien, et Samy Tchèque. Ce sera demain à 11h au Centre culturel Bellegarde. Mais justement, pour revenir à cette histoire de prophétie, de malédiction, peut-être tout simplement aussi de magie, dans votre roman, Shigozie Obioma, vous dites, faites dire au narrateur, je sais aujourd'hui que ce qu'on croit devient souvent réel et que ce qui devient réel peut-être indestructible. La présence de la magie au Nigeria, ce pays où vous dites qu'on peut tout à fait achever une thèse de philosophie sur Descartes et continuer à croire en la réincarnation, quelle place elle a, cette magie, comment elle résonne dans les pêcheurs, Shigozie Obioma?
I like to say that my novel is a kind of African reality, it's not necessarily magical realism as some have said it is.
Donc mon livre n'appartient pas au courant littéraire de réalisme magique, hein, mais dépeint une réalité africaine.
The reason is because we have a worldview that is different from that of the West. Even though we have acquired Western civilization and education, we still maintain our worldview, which is unique. It's not bad, but it's just different from that of the West.
Donc notre vision du monde est différente de la vision occidentale des choses. Et ce n'est pas une mauvaise vision du monde, c'est juste sa singularité. Elle est différente.
What I mean is that there's no difference in the Igbo imagination, for example, between the real and the ethereal, that's between the world you can see and the supernatural. So they are intricately linked in the Igbo imagination, and that is why we believe certain things that the West deem superstitious.
En fait, dans la tradition Igbo, il n'y a pas de différence entre le réel et le surnaturel. Ils sont tous les deux liés, et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre culture occidentale, de la superstition. Mais pour eux, ce sont des croyances qui font partie du réel.
Et Shigozie Obioma, comment cette magie, vous arrivez à la faire affleurer justement en littérature? Est-ce que c'est justement en ayant mêlé les langues, il y a de l'anglais, il y a aussi du yoruba, de l'igbo, comment est-ce que vous avez réussi à la faire passer justement pour le lecteur?
It's in many ways on the language level, but also on the plot level. For example, many people will question whether Abulu's cause and the transformation it generates in the novel is plausible in a Western context, but it is very plausible in the African context.
Donc cet aspect magique fonctionne à deux niveaux, il fonctionne dans le langage, il fonctionne également dans la narration. Et beaucoup de gens lui demandent si le sort que jette Abulu et cette prophétie serait crédible dans la vie au Nigeria. Et oui, ça fonctionne très bien, c'est plausible, ça peut exister.
Il y a un autre domaine où le surnaturel et la réalité se mélangent, c'est dans l'amour.
Atomise et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve, Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel.
Au ciel, Madame Rêve, chantée par Bachung, écrite oui. par Pierre Grillet. C'est aussi un récit.
Oui.
Et ce récit, c'est le portrait d'une femme, Pierre oui. Grillet. C'est le portrait de Natacha, qui a, écrivez-vous, hanté New York, les hôtels de luxe, les hôpitaux psychiatriques. C'est l'histoire d'un amour fou. Or.
Fou, d'un amour, quoi.
Ouais, avec un brin de.
Non, mais.
Un brin de folie.
Je sais pas, moi je trouve ça. Enfin, si on n'est pas comme ça dans l'amour, c'est pas, il y a pas d'amour, quoi.
Mais précisément, moi j'ai pensé à l'amour fou, à l'amour fou de Breton, et j'ai trouvé sous sa plume une d'accord. phrase où il parle de chansons. Mm-hmm. Il dit que j'aimerais que ma vie ne laissât après elle d'autres murmures que celui d'une chanson de guetteur, d'une chanson pour tromper l'attente, car quoi qu'il advienne, c'est l'attente qui est magnifique. Pour vous, écrire l'amour en chanson. C'est aussi écrire l'attente.
J'espère que c'est pas que l'attente, mais non.
C'est la satisfaction bon, non, aussi des désirs.
C'est écrire des chansons. C'est parfois c'est très présent, c'est le présent, c'est l'instant. Puis parfois, souvent, c'est aussi se rappeler, c'est ouvrir un carnet, tomber sur une phrase qu'on a écrite il y a longtemps. Et puis tout d'un coup, on a envie de la, on peut la développer. On pouvait pas le faire sur le moment. Et puis tout d'un coup, il y a une chanson, enfin une chanson. Il y a quelques phrases qui s'enchaînent.
Est-ce qu'on peut attraper l'amour, puisque je vous pose cette question frontalement, ou est-ce qu'on est obligé de passer par des détours inattendus, comme pour cette chanson Madame Rêve, où je crois que vous êtes parti de ces cylindres si longs qu'ils sont les seuls.
Ouais. Enfin, je suis parti de oui de cette phrase que j'aimais bien, qui sonnait bien. Ouais, enfin bon, je l'ai oublié à l'instant.
C'est pas loin des serpents qui sifflent sur les têtes.
Oui, je sans faire exprès, c'est des allitérations, c'est un peu banal, mais ça, je l'aimais. Cette, enfin, moi, une phrase peut me rendre heureux une journée, parfois un peu plus, quand elle me plaît, une petite tournure comme ça, ça peut me rendre heureux. Donc, j'ai de la chance.
Alors justement, puisqu'on est dans la phrase, moi je voudrais qu'on s'arrête un peu plus sur la façon qu'Achegozi Obioma de nous parler de son personnage du fou. Abulu, c'est un personnage comme ça qui vit dans les marais, c'est un marginal. On a reçu récemment un documentariste qui s'appelle Joris Lachaise qui a travaillé sur la folie en Afrique. La folie comme quelque chose d'extérieur. Finalement, les individus ne sont pas fous fondamentalement, c'est le regard qu'on pose sur eux ou simplement ce que la société leur fait. Quel est le rôle de ce personnage d'Aboulou dans votre roman Les Pêcheurs chez Gozé Obioma?
So I wanted to, as I said before, the novel works as a metaphor for the state of Nigeria, some of the inadequacies that I see, a very rich country, but that is also poor at the same time.
Donc, comme je le disais précédemment, hein, le fou sert de métaphore pour parler de la situation du Nigeria, de tous ses dysfonctionnements et du paradoxe que le Nigeria est un pays très riche et très pauvre à la fois.
So I wanted to have an external force, something come from the outside and destroy the unity of an entity, because I came up with the understanding that a civilization cannot be destroyed from the outside, it has to be corroborated from within.
Donc il lui fallait une force destructive qui vienne mettre à plat toute une petite structure, ici la famille, et il a eu cette idée que la force destructive ne viendrait pas de l'extérieur mais bien de l'intérieur ici du pays.
So that you know, force that comes from the outside, like the British, and supplants our civilization and said it's barbaric. This is how you should live. It's what the madman does to this family. These four boys at the beginning of the novel are joyful. They have all sorts of dreams. But he comes and says, you will be like this. You're not going to be a lawyer. You're not going to be a doctor or a pilot. And then he, you know, destroys their future because of that.
Et donc cette force, elle est incarnée par le fou Aboulou. Il y a cette famille avec chacun des frères qui ont chacun leurs rêves. Hein. Certains veulent devenir pilotes, d'autres médecins. Et le fou va leur dire, non, votre futur ne sera pas celui-là, et va leur prédire une autre vie.
Chigozie Obioma, vous êtes nigérian à l'origine. Vous parlez de la présence de la culture occidentale, mais aussi d'une culture nigériane très forte. On connaît non seulement aujourd'hui la littérature nigériane, grâce à vous et un certain nombre d'auteurs, ici au Marathon des mots qui sont bien représentés. On connaît le cinéma du Nigeria avec le fameux Nollywood, avec ses séries et ses films qui irriguent tout le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a une chanson, puisque vous êtes avec un parolier, avec un musicien, une musique qui a pu vous tourner dans la tête quand vous écriviez Les Pêcheurs? Je ne sais pas si c'était de la musique Yoruba, de la musique Apala, ou je ne sais pas, de l'Afrobeat, des musiques d'aujourd'hui du Nigeria.
A song that I had in mind. I did play a song that kind of inspired me most of the way, but it wasn't a Nigerian song. It's a Tanzanian song.
Donc il y avait effectivement une chanson qu'il avait en tête lors de l'écriture. Ce n'est pas une chanson nigériane, mais de Tanzanie.
It's called Siku Hazigandi by the artist Lady JD. That's her name.
Et ça parle de quoi?
La traduction.
Non, là.
Yeah.
On vous a perdu.
Siku Hazigandi. It's talking about how she hopes for things to happen, but they don't necessarily happen. She had a problem with childbearing, and for almost 10 years she couldn't conceive. Mm-hmm. So that was why she made the music, the song.
Donc c'est une chanson à propos de vouloir que certaines choses arrivent et qu'elles n'arrivent pas, car cette femme a eu pendant 10 années des difficultés à avoir des enfants.
Benjamin Sixou, vous travaillez actuellement ici au Marathon des mots avec Pierre Grillet pour ce spectacle musical Madame Rêve.
On le sait. On va faire pour la première fois.
Et on le sait parfois peu. Il l'a dit qu'une fois, je crois, dans la presse. Pierre Grillet a pu, dans une vie antérieure, fabriquer des faux passeports à propos de ce qu'on peut faire advenir ou pas avec des malédictions, avec des chansons. Est-ce que vous pensez, vous, que la chanson, ça peut faire comme l'effet d'un faux passeport, c'est-à-dire vous ouvrir des frontières, vous permettre de changer votre vie?
Ça dépend quelle chanson. Une chanson pareille, je comprends qu'elle ait pu lui changer la sienne.
Il y a une chanson qui vous a fait cet effet-là?
Moi, il y a plein de chansons qui ont changé ma vie, mais lesquelles, c'est ça?
Là, tu me parlais de Jean-Luc Vanier.
Jean-Claude Vanier. Jean-Claude Vanier.
Dans Mélodie Nelson
Non, mais il y en a plein d'autres qui sont vraiment.
Oui. Non, mais alors, j'en sais rien. Après, j'en sais rien. Non, mais après, quand on parle de malédiction et tout ça, là, ça me fait beaucoup penser au blues, en fait. Et à toute l'histoire du blues. Robert Johnson et et comment comment ça de comment de le spirituel et aussi les passions amoureuses comme ça ça devient quelque chose de très concret, ça devient parce que la c'est là que la musique aussi devient très concrète et devient aussi dans l'universel quoi, et que ça ouvre justement ces portes là et pas que les mecs d'il y a 150 ans dans le Bayou et qu'aujourd'hui ça fait écho encore dans nos sociétés d'aujourd'hui et je trouve ça très concret justement quoi.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture en direct, en public de la salle du Sénéchal au Marathon des Mots à Toulouse. On est à la fois dans le concret, dans le surnaturel, vous l'aurez compris.
À suivre, une chanson qui continue de résonner dans l'actualité aussi à cause des garçons. Ce sera en live, signé Pierre Grier et interprété par Benjamin Xixou. Et puis on s'intéressera. Xixou and the Bunchies. Et on s'intéressera aussi, bien sûr, au Nigeria d'aujourd'hui à travers le travail de Chigozie Obioma.
Et notre banshee, à la fois surnaturelle et bien réelle, c'est Zoé Sfez pour le Journal de la Culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir à tous.
Bonsoir Zoé.
Ce soir, Zoé, vous êtes avec nous en direct et vous avez rencontré toute l'après-midi un certain nombre d'auteurs. Vous avez flâné micro au vent dans les rues de Toulouse. Et à l'occasion de cette partie spéciale de la programmation du Marathon des Mots intitulée Africa Nova, vous consacrez votre dossier ce soir au parcours de jeunes écrivains africains qui, pour la plupart, ont moins de 40 ans, qui sont présents ici à Toulouse, et vous intéressez à leur rapport à la langue et à la place de la littérature aujourd'hui en Afrique.
Oui, alors vaste question qui peut se poser quand on voit qu'il y a un vrai mouvement de fond. En tout cas, ici en France, on découvre une nouvelle génération d'auteurs africains qui émergent, certains qui sont présents au Marathon des Mots. Alors, il faut savoir que cette génération, elle est là, alors que longtemps, on a qualifié l'Afrique de ghetto éditorial. Afrique qui sont pourtant en pleine effervescence parmi les jeunes auteurs présents, beaucoup d'anglophones donc, sont notamment présents les nouveaux de la littérature nigériane, mais évidemment aussi plusieurs francophones. Certains, la plupart, ne vivent plus, ou en tout cas ne vivent plus intégralement dans leur pays d'origine. Ils vivent, pour les Nigérians, parfois aux États-Unis ou en Europe, mais entretiennent des liens très forts avec leur pays. Parmi eux, il y a Fiston Mwanza Mujila, écrivain mais aussi poète, performeur, originaire de Lubumbashi, une des grandes villes de la République démocratique du Congo. Il vit aujourd'hui à Grasse, lui, en Autriche, il parle allemand, il publie même en allemand. Son roman en français, Tram 83, a récolté une vraie moisson de prix. Quand je lui ai demandé ce qu'il aurait pu devenir le même écrivain s'il était resté à Lubumbashi, voici ce qu'il m'a dit.
Je ne crois pas, parce que je viens d'une ville minière, où il y a une notion qui est très importante, le cas ici, la notion de travail. On peut être écrivain à Kinshasa, artiste à Kinshasa, mais à Lubumbashi, la culture, c'est le samedi et les dimanches. Et donc, moi, si j'étais resté à Lubumbashi, peut-être j'aurais continué à écrire, mais pas avec la même puissance. En termes de littérature, il y a, pour un pays comme le Congo, je pense qu'il y a très, très, très peu de maisons d'édition qui remplissent les critères d'une maison d'édition. Il y en a très très peu. Le problème avec Congo, c'est que le pays il est tellement vaste. C'est-à-dire que quand tu publies à Lubumbashi, ton éditeur n'a pas les capacités, les moyens de faire arriver ton livre à Kinshasa. C'est-à-dire que chaque ville a une autonomie culturelle, littéraire. C'est difficile pour un auteur, je parle du Congo, Kinshasa, d'émerger parce qu'il n'y a pas de librairie. Mais cela dit, les gens continuent d'écrire. C'est très mal avec leurs manuscrits. Vous n'allez pas interdire aux gens de rêver.
Heureusement, on n'est pas à Lubumbashi, ici à Toulouse. C'est la culture, pas seulement le samedi et le dimanche. Hein, c'est nuit et jour jusqu'au 26 juin et puis le reste de l'année quand on écoute France Culture, entre autres. L'autre phénomène éditorial de ces derniers mois, Zoé, c'est la découverte, du moins en France, donc d'une nouvelle génération d'écrivains nigérians.
À laquelle, évidemment, Chigozie Obioma appartient. Mais là aussi, dans cette génération, il y a beaucoup d'expatriés. Nous avons reçu dans Ping Pong, par exemple, Chimamanda Ngozi Adichie, qui est présente à Toulouse et qui racontait dans son très puissant roman Americana sa migration justement aux États-Unis. Alors Laure Leroy est française, elle dirige les éditions Zulma, elle est responsable donc de cette maison qui est fondée en 91, qui est dédiée aux littératures du monde, et elle a commencé un vrai travail de défrichage pour traduire de la littérature africaine mais anglophone, ce qui est très peu vu encore aujourd'hui en France. Elle a publié notamment un recueil de nouvelles de 6 auteurs très prometteurs nigérians, Snapshot, nouvelle du Kane Prince, et aussi notamment le dernier roman de Mackenzie Dorsel que nous avions d'évasion reçus dans Ping Pong. Elle, elle estime que finalement, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelles que soient les difficultés du monde éditorial de l'endroit où ils vivent, eh bien, ils trouvent un lectorat, tous ces auteurs, grâce aux nouvelles technologies, et que c'est surtout finalement le regard de la France sur eux qui a fondamentalement changé.
Bah, on la connaît très très mal, et jusqu'à présent, il y avait surtout des auteurs, disons, blancs d'Afrique du Sud qui étaient traduits. Et quand j'ai commencé à me plonger là-dedans, je me suis dit, un peu, dans les années 80, on a eu une sorte de révolution de la littérature qui nous venait d'Amérique latine. Et je me suis dit, mais dans les 5 ou 10 prochaines années, ça va être l'Afrique francophone et anglophone. En fait, tout repose sur la question de là-bas. Il n'y a pas de là-bas. En fait, on vit dans le monde. Donc, tous ces écrivains, ces 6 auteurs publiés dans Snapshot, Nouvelle Voix du Ken Price, je peux vous dire que chacun d'entre eux n'avait publié que des nouvelles dans des revues littéraires, sur le web ou dans des journaux ou des magazines. Et ils avaient tous déjà un agent littéraire. Et ils n'avaient pas un agent littéraire perdu derrière les fagots. C'était Wiley ou d'autres agents qui sont réputés sur la planète. Donc tout ça pour dire que ça peut paraître très loin. Et en même temps, c'est déjà complètement dans le système éditorial.
Voilà, alors de la même manière, l'écrivain congolais Fiston Mwanza Mudjila avec qui j'ai parlé, s'il convient quand même qu'il n'aurait pas été le même écrivain s'il était resté à Lubumbashi, estime qu'il ne faut plus parler d'auteurs africains exilés, mais d'auteurs africains tout court, qui livrent un regard sur leur pays, d'où qu'ils vivent, qu'ils le portent en eux, qu'ils retournent souvent. Il me rappelait avec humour, par exemple, que Mathias Sénard, qui est prix Goncourt 2016, habite depuis plus de 15 ans à Barcelone et qu'on ne dit jamais, lui, que c'est un auteur français en exil. Alors sur la question de la langue, par exemple, qui reste cruciale, quand on lui demande pourquoi, justement, le français et l'anglais restent encore aujourd'hui les deux langues principales de la littérature africaine, alors que lui, par exemple, est swahiliophone. Voici ce qu'il m'a répondu.
J'ai écrit en swahili quand j'étais encore au pays, mais j'ai arrêté pour deux raisons. La première, c'est que pour écrire en swahili, il faut lire en swahili, parce que l'écriture se nourrit de la lecture. Mais quand il n'y a pas de littérature en swahili, vous ne pouvez pas écrire. La deuxième chose, c'est quand vous écrivez en swahili, vous ne pouvez être lu que par les gens qui ont fait des études. Et quand on étudie au pays, tout s'est fait en français. Et donc, l'habitude de la lecture est liée à la langue française. Et moi, je pense, au final, le français parlé maintenant au Congo, par exemple, depuis deux ou trois générations. Est-ce que cette langue-là ne peut pas devenir, comme beaucoup le disent, une langue africaine, au-delà de cette langue africaine? Par exemple, moi, quand j'ai vécu à Graz, je parle au quotidien l'allemand, j'écris en allemand, mais j'écris en français. Mais quand j'écris en français, je n'écris pas dans la langue de France, j'écris dans ma langue, dans cette langue qui m'appartient. Je pense qu'il faudrait décoloniser, peut-être démétropoliser la langue française.
Voilà, alors la francophonie, me disait-il, n'a pas vraiment de sens, puisque effectivement, lui considère qu'aujourd'hui, le français, c'est aussi l'une de ses langues intérieures. Donc, Fiston Mwanza Mudjila, à ne pas manquer en performance, c'est extrêmement impressionnant. Performance souvent dans lesquelles il mélange d'ailleurs à la fois du français, un peu d'allemand, beaucoup de swahili. Ce sera demain à 10h30 à la librairie Mots et Compagnie, 35 rue Armagnac à Carcassonne.
Après le Nigeria, entre autres directions, l'ancien empire britannique, avec Zoé dans les brèves, les réactions des artistes au Brexit.
Oui, elles sont très très nombreuses, puisque je vous rappelle que dans leur grande majorité, selon leur syndicat, 96% d'entre eux soutenaient le Remain, donc le fait de rester dans l'Union Européenne. J.K. Rowling, qui a été vraiment la passionnariat de ce mouvement, l'auteur d'Harry Potter, a fait ses adieux au Royaume-Uni sur Twitter. « Je vous quitte », dit-elle, « et j'affiche ma fierté de faire partie de cette petite minorité qui veut rester européenne ». Alex Capranos, le chanteur et guitariste du groupe de rock écossais Franz Ferdinand, lui aussi donc écossais et partisan d'une équesse qui resterait dans l'Union Européenne, a déclaré « Baby Boomers, vous êtes la génération la plus égoïste, gâtée en abondance par les précédentes générations, vous affamez les générations qui suivront », en référence au fait que, évidemment, ce sont surtout les plus de 50 ans qui ont massivement voté pour le Brexit, alors que les 18-24 ans soutenaient eux le Remain.
Le metteur en scène et directeur d'institution Pierre Audi a été nommé à la tête du Festival international d'art lyrique d'Aix-en-Provence.
Il succédera à Bernard Faucroul, qui en 10 ans en a fait un festival d'envergure internationale particulièrement novateur notamment en matière de mise en scène. Pierre Audi, qui est un profil assez original, originaire du Liban, il a d'abord fondé à Londres un théâtre pour accueillir la création française, puis il a pris la tête du festival Hollande aux Pays-Bas avant de prendre la tête de l'Opéra National Néerlandais, puis la direction artistique du Park Avenue Amroy à New York. Il prendra ses fonctions à Aix le 1er septembre 2018.
Les suites d'un feuilleton que vous avez suivi, Zoé, dans le Journal de la Culture, le scandale des antiquaires prend de l'ampleur et rejoint celui des Panama Papers.
Oui, rappelez-vous, je vous en ai parlé, Bill Payot, antiquaire très renommé de la place de Paris, a été mis en examen, ce qui a beaucoup choqué la profession il y a quelques semaines. Il est soupçonné d'avoir vendu de faux meubles anciens construit par un ébéniste faussaire, notamment au château de Versailles, pour plusieurs millions d'euros. Le journal Le Monde révèle en outre aujourd'hui que Bill Payot était aussi à la tête d'une société offshore montée par le fameux cabinet panaméen Mossack Fonseca, active au moins jusqu'en 2011 avant de passer dans l'escarcelle d'un autre cabinet qu'il aurait utilisé pour gérer les bénéfices générés par la vente de meubles anciens, vrai ou faux. On le saura, l'enquête continue.
Merci Zoé. Et forcément, après votre dossier, une réaction de notre invité Chigozie Obioma, qui est écrivain nigérian, exilé d'abord à Chypre pour écrire Les Pêcheurs, hein, donc, qui sont publiés aujourd'hui en France aux éditions de l'Olivier. Vous vivez également à l'université de Lincoln, enfin vous y vivez, vous y enseignez, c'est dans le Nebraska. Comment est-ce que vous avez, reçu cette distinction entre écrivain exilé et écrivain africain ? Dans le dossier de Zoé, on nous explique que finalement, voilà, il ne faudrait plus le préciser.
Well, being in exile, I don't call it exile. I am temporarily living in America. That's to begin with.
Donc ce n'est pas un exil. Je vis de manière temporaire aux États-Unis.
Yeah, I went there for college, to Cyprus for college, and then to America for grad school. Somehow I ended up staying there because, you know, my book was being published in the West and I wanted to be able to easier mobility around that region.
Donc il a fait ses études supérieures à Chypre, puis aux États-Unis, et ensuite il est resté aux États-Unis car son livre a été publié là-bas et pour des raisons de mobilité, il est encore aux États-Unis.
But I believe that I cannot write about a place in fiction when I'm living in that place. So I need to have a distance from it to be able to capture it and have perspective and nuance. And so I would not have written The Fisherman if I had been living in Nigeria.
Mais il estime qu'il ne peut pas écrire à propos d'un pays s'il y vit. Il n'aurait pas pu écrire Les Pêcheurs s'il avait vécu au Nigeria. Il a besoin d'être en dehors du pays pour avoir de la distance, pour pouvoir cerner des nuances et pour pouvoir parler de ce pays.
Et je précise que c'est un peu ce que nous avait fait Monza Majila, qui m'expliquait que sa littérature serait probablement moins puissante, bien qu'il revienne extrêmement souvent en RDC, s'il n'avait pas lui aussi cette forme de distance.
Donc c'est une distinction inutile. Ce qui est intéressant, c'est en fait des conditions d'écriture qu'on ne devrait pas préciser au préalable.
Mais Pierre Grillet, vous avez vécu dans des tas d'endroits, aux quatre coins de l'Europe en particulier. Vous aviez besoin de ça pour écrire de belles chansons en français ?
Non, mais j'entendais un écrivain algérien dont j'oublie le nom qui disait qu'il écrivait en français parce qu'il considérait que c'était une prise de guerre, la langue. Et qu'il assumait complètement de ne pas écrire en arabe.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Not away. You throw stones. Can you see that I am?
pulsations de la chanteuse germano-nigériane Neka à l'instant avec Hot Beats. Et vous êtes bien sur France Culture en direct du Marathon des mots dans la salle du Sénéchal, en direct et en public, oui. Ils sont discrets, mais ils sont là, ils sont présents. Et nous sommes toujours donc avec Chigozie Obioma, compatriote de Neka, écrivain qui publie Les Pêcheurs. Le Nigeria actuel, de 1993 à 2005-2006, est présent dans le livre, notamment après des troubles électoraux en 1993. Comment est-ce que vous avez voulu tisser finalement cette histoire politique dans le récit qui est au départ donc le récit de l'explosion d'une fratrie suite à une prophétie?
Because politics is everyday life, and these boys in the story were living at a period when you know, there was much more pronounced politics around an election year.
Donc la politique fait partie de la vie quotidienne, et ces garçons vivaient à une époque où il y avait une grande activité politique.
I think it did emerge organically in the context of the plot.
Donc ça fait partie du tout organique de la narration.
Vous avez la sensation, Pierre Grillet, vous, le parolier, l'auteur, on ne cesse de le répéter, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici au Marathon des mots de Madame Rêve pour Alain Bachung, que vous écrivez des chansons politiques?
Non, pas du tout. J'ai pas, enfin, non, je crois pas.
Parce qu'il a peur que Chigozie Obioma, dans son roman, à la fois parle de l'actualité politique en toile de fond, comme le disait Mathilde, et il utilise des formes ancestrales qui sont celles de récits traditionnels, avec cette histoire de prophétie en particulier qui est au cœur du nœud dramatique du récit. Vous, vos chansons, vous avez le sentiment que vous essayez de toucher à quelque chose d'intemporel, d'intempestif, ou qu'au contraire, vous êtes toujours le jouet de votre époque, de votre temps?
Non, mais écoutez, je sais pas, j'ai des chansons que personne connaît, mais enfin, j'ai une chanson qui s'appelle, qui va sortir, là, bientôt, qui s'appelle Classe ouvrière. Elle avait la classe ouvrière.
Et, c'est vous qui la chanterez?
Non, c'est pas moi, non. Et une autre chanson qui s'appelle Je bosse au noir. Donc, on pourrait dire que c'est des chansons politique, mais moi je trouve pas.
Elle avait la classe ouvrière, c'est de l'ironie, c'est la classe non, ouvrière s'en va au paradis.
Non, c'est le.
C'est l'actualité quand même.
C'est un hommage à la mère d'une de mes amies, et donc c'est comme un portrait de sa maman, un raccourci comme ça, et puis voilà, il y a cette phrase. Bah par exemple, voilà, elle me dit fais une chanson sur ma mère. Je sais pas quoi faire, faire une chanson sur la mère de quelqu'un. Et tout d'un coup, je la connais, tout d'un coup, et me vient cette phrase, elle avait la classe ouvrière. Donc, à partir de là, j'arrive à faire la chanson. Voilà.
Benjamin Sixou, vous, jeune artiste, vous n'êtes pas un baby-boomer. Et voilà, les chansons qui vous inspirent, c'est à la fois des chansons pop, celles que vous chantez à votre façon, et en même temps, on l'a entendu tout à l'heure dans la première partie, vous êtes pétri, féru, peut-être hanté, envoûté par le blues, par le jazz. Vous avez le sentiment d'essayer d'attraper quelque chose de l'époque, ou vous vous laissez prendre par une dimension comme ça, oui, universelle, intemporelle?
Ben, je crois qu'une chanson, une chanson qui marche, pas au sens de ce qui, enfin, pas qu'il y a du succès, mais une bonne chanson, c'est les deux justement. C'est quelque chose de très très concentré comme ça, très très petit, et qui peut justement être très universel, qui peut revivre, qui peut, et surtout en fonction aussi de l'interprétation de chacun, quoi. Soit l'interprétation du chanteur qui peut la reprendre et qui peut la refaire et qui peut refaire et sortir des choses qu'il n'y avait pas à l'origine, et l'interprétation de l'auditeur aussi, qui va comprendre, je crois qu'on aime tous comprendre des phrases, des mots, même nos chansons préférées. Enfin, Bachung, pour moi, c'est un puissant fond pour ça, parce qu'il y a vraiment des formules encore aujourd'hui, alors après la millième écoute, où je découvre des jeux de mots. Alors ça se trouve, il y a même pas pensé, mais je veux même pas savoir si c'était prévu ou pas, quoi. C'était vraiment, et je crois que c'est ça aussi la jouissance de ces petites chansons, qui sont des petites choses et qui peuvent être immenses aussi.
Alors tous ces jeux de mots sont parfois ceux de Bachung, ils sont parfois ceux de ses paroliers, Pierre Grillet, Boris Bergman, Jean Fauque. Précisément, vous allez nous permettre d'écouter en acte, non pas Elle avait la classe ouvrière, parce que celui-là, il n'est pas encore sur partition, mais si vous voulez bien, Benjamin Sixou, attrapez votre guitare, vous donc, qui accompagnerez au chant, à la guitare, dès ce soir, Pierre Grillet, dans le spectacle Madame Rêve, au cloître des Jacobins, à 22h30, vous nous proposez un extrait du répertoire de Pierre Grillet, À cause des garçons.
Ah, c'est une petite chanson.
Tu déconnes, on va pas te faire encore un plan gros sacom. De quel plan tu causes, tu oses? C'est toi qui as commencé. J'abandonne, t'es vraiment trop conne. À pas grand chose, tu déconnes. Tu vois, lui me trouve super bonne. Ouais, à cause des garçons, on met des banilons, on se crêpe le chignon. À cause des garçons, on flirte sur tous les temps. On dit ça à cause des garçons. On s'allume pour de bon à cause des garçons. Carabine, c'est le mot qui vient quand je pense à mes copines. Et moi j'ai ma dose sans être de tes doses de chimère. J'hallucine, faut qu'on te bassine. Tout ça pour un mec de frime. Tu déprimes, je te le laisse, c'est ton style. À cause des garçons, on met des banilons, on se crêpe le chignon. À cause des garçons, et du camp dira-t-on, on flirte sur tous les tons. À cause des garçons, on s'allume pour de bon. À cause des garçons, on met des banilons, on se crêpe de chignon. À cause des garçons, et du camp dira-t-on, on flirte sur tous les tons. À cause des garçons, on s'allume pour de bon. À cause des garçons.
C'est de sa faute. C'est de sa faute. Pierre Grillet a écrit cette chanson.
Merci Alain Chamfort aussi.
Ouais. Benjamin Sixou l'a réinterprété, réenvisagé. C'est un tube éphémère de 1987, il faut le rappeler, qui a été réenvisagé lui-même 30 ans plus tard par la chanteuse Yel.
C'est vrai.
Et qui est aujourd'hui donc en live dans une nouvelle version par Benjamin Sixou pour Ping Pong. C'est déjà fini.
And it's a tragedy, comme on dit dans la langue. À Shakespeare, merci beaucoup à toutes et à tous. On peut saluer, peut-être féliciter, applaudir nos invités, puisqu'on a la joie d'être en public ici au Sénéchal, à Toulouse, dans le cadre du Marathon des mots. Merci Shigozi Obioma. Votre roman, donc, c'est Les Pêcheurs, édité chez L'Olivier, traduit de l'anglais par Serge Chauvin dans une magnifique traduction pour dire l'exactitude et la luxuriance de votre prose. Vous proposez une rencontre lecture samedi à 11h avec Mackenzie Orsel, Sami Tchak au Centre Culturel Bellegarde. Et il y aura, je crois, une lecture samedi encore demain à 19h, ici même au Sénéchal, une lecture de vos Pêcheurs. Quant à vous, Pierre Grillet, avec la complicité coupable donc de ce garçon qui est Benjamin Sixou. C'est ce soir, Madame Rêve, c'est votre récit roman au stock et aussi donc ce spectacle musical à 22h30 au cloître des Jacobins à Toulouse.
Le ping-pong est un petit marathon radiophonique qui se fait en équipe. Et quelle équipe! À la rédaction, Aïssatou Endoy, Hélène Delier et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Thomas Beau. À la traduction, Adèle Cassignol. Bravo à la prise de son ce soir, Hervé Dubreuil, Dila Dube, Stéphane Poitevin. Chargé de production, Franck Malabry. À l'organisation, la merveilleuse équipe du Marathon des mots.
Mais quand sera-t-il lundi, Mathilde?
Lundi, ce sera le design du corps de Pierre Paulhan et le corps transdisciplinaire de la chorégraphe Mathilde Monnier.